Bonjour à tous. Ça va, vous allez bien? Ouais. Oui, très bien, ça va. Merci. C'était une joie de louer le Seigneur, d'être dans la présence de Dieu. La louange nous rapproche de Dieu. Donc ça va encore mieux que quand je suis arrivé. Et en tout cas, je voudrais vous remercier du privilège d'être là, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Merci de m'accueillir et merci à votre pasteur qui a eu la gentillesse et me faire l'honneur, la foi aussi. On ne sait jamais, ce qui peut se passer, de m'accueillir dans votre église. Et on se rencontre régulièrement dans les pastorales, environ tous les 2 mois à peu près. Et donc on a eu l'occasion de partager un petit peu et de se sentir un peu connecté, je pense, au niveau de vision d'église, de croissance, un peu sur ces sujets-là, et dans lesquels, si j'ai bien compris, vous êtes dans un nouveau projet d'église, au niveau d'un bâtiment, vous êtes au niveau d'une conquête financière. Donc c'est des moments qui sont excitants pour une église, mais c'est aussi des défis. Et donc c'est un peu dans ce contexte-là aussi que je voudrais vous apporter quelques éléments tirés de la parole de Dieu, bien sûr, pour vous encourager dans ce que vous faites, pour aller de l'avant et pour conquérir, parce que le monde autour de nous a besoin de Jésus. Nous en avons besoin, mais le monde autour de nous en a d'autant plus besoin. Amen. Et nous sommes le sel, comme on l'a chanté, le sel de la terre, la lumière du monde. Donc on a vraiment un rôle que personne d'autre que nous ne peut avoir. Il y a des choses que les gens autour de nous font très bien, le social, l'humanitaire, l'église en fait, mais le monde autour de nous en fait. Mais il y a quelque chose que nous avons, que nous sommes les seuls à pouvoir communiquer. Et c'est pour ça que l'église doit avoir une place d'influence. Donc je vous encourage pour ces projets de croissance, parce que c'est une manière pour Jésus-Christ de mettre son église plus en influence et plus en évidence pour bénir le monde qui est autour de nous et lui faire connaître la vérité de l'évangile. Amen. Amen. Donc, je m'appelle Pierre-Emmanuel. Mon nom de famille, c'est Jean. Ça fait trois noms bibliques. C'est pas mal. Hein, c'est pas de ma faute. Je suis né dans une famille athée et c'est ce qui m'est arrivé de naissance. Donc, j'ai pas choisi. Quand j'étais jeune, Pierre-Emmanuel, je trouvais vraiment que ça faisait faillot. Donc Emmanuel, j'avais mis ça de côté, je me suis contenté de Pierre. Puis quand je me suis converti à l'âge de 19 ans, j'ai récupéré le Emmanuel, j'ai dit finalement c'était pas mal, c'était une bonne idée. Et voilà. Donc je m'occupe donc de, comme ça a été dit, de l'église Mission Gospel Centre, et qui est une assez jeune église. On va fêter nos 10 ans d'existence. Et voilà, on a démarré avec une vision nouvelle aussi, avec... J'ai une expérience de l'église aussi, et on a tous, avec l'équipe avec GT, on avait toute une expérience d'église, mais on a étudié, on a cherché, et on s'est rendu compte aussi qu'il y a des changements à faire si nous voulons aussi avancer, croître. Et donc on a redémarré une église avec une vision neuve, et ça a produit en tout cas une certaine croissance, certains résultats. Et donc, j'ai aussi un petit peu d'expérience sur laquelle m'appuyer aujourd'hui pour partager certains principes de la Bible avec vous. Donc, je suis l'heureux époux d'une seule femme qui s'appelle Francine et qui est depuis bientôt 30 ans ma femme. Donc je suis également avec elle l'auteur d'une famille de 5 enfants. Hey, pas mal, hein ? Productivité. Et je suis depuis peu, nous sommes depuis peu même grands-parents, puisque notre fils est né avec son épouse. Ils ont une fille qui vient de fêter ses 1 an. Et ils attendent maintenant un deuxième, donc je vais être doublement grand-père, malgré mon tout jeune âge, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc ça c'est pour la présentation un peu personnelle. Ça fait une trentaine d'années que j'ai rencontré Jésus et ça a changé ma vie, parce que comme je vous disais, J'ai grandi dans une famille athée. Pour moi, Dieu n'existait pas. J'avais absolument aucune foi en Dieu. Le Père Noël, j'ai plus cru au Père Noël au moins quelques années. J'avais pas plus de foi dans l'existence du Père Noël que dans l'existence de Dieu à l'âge de 19 ans. Pour moi, Dieu, c'est même un mot, je pense, que j'ai pas dû prononcer 10 fois jusqu'à l'âge de 19 ans. Et depuis, ça a changé, quoi. Je le prononce assez régulièrement. Donc j'ai eu vraiment une rencontre surnaturelle avec Jésus qui a changé ma vie à 100%. Et puis après, le désir de servir Dieu, etc., etc., ça a grandi. Et puis voilà, je suis depuis presque depuis ma conversion, j'ai commencé à prêcher, à servir Dieu dans l'église, dans les GBU. Et puis j'ai continué dans l'église de prendre de plus en plus de responsabilités. Et là, ça fait maintenant depuis plus de 16 ans que je suis à temps plein pour l'œuvre de Dieu dans le ministère, etc. Et donc une dizaine d'années qu'on a démarré cette église, Mission Gospel Centre. On a démarré à Clermont-Ferrand, à Saint-Éloi-les-Mines aussi. Donc on a aujourd'hui deux assemblées qui fonctionnent. Et à Saint-Éloi, c'est devenu une assemblée qui est liée à nous, mais qui est indépendante, qui a ses pasteurs, son groupe de louanges, son bâtiment. Ils réunissent environ 50 personnes le dimanche matin. Donc c'est bien, parce que c'était une ville où il n'y avait aucune église, aucun témoignage chrétien. Et une famille, par contre, très plongée dans tout ce qui est occulte. Il n'y a pas une seule famille qui n'est pas touchée par l'occultisme, par exemple. Tout le monde, toutes les familles. On connaît maintenant tout, on connaît bien cette ville, on connaît les gens. Il n'y a pas une seule famille qui ne vont pas voir les guérisseurs, qui n'ont pas un antécédent dans l'occultisme. Le groupe avec lequel on a commencé l'église, c'était un groupe de 6 dames, pour la petite histoire, qui se réunissaient régulièrement avec un médium pour parler avec les morts. Wow. Sympa hein, comme approche. Et c'est cruel parce que certains d'entre elles avaient perdu des enfants. Donc ils essayaient comme ça d'avoir un contact avec leurs enfants disparus. Et en fait, ça entretenait une souffrance. Et ils étaient là-dedans, en fait. Et un jour, ils ont demandé au médium de leur faire venir Jésus pour pouvoir parler avec lui. Normalement, ils n'auraient pas dû le trouver parce que Jésus n'est pas parmi les morts. Hein, c'est vrai. Il est ressuscité, non? Et en tout cas, voilà, et on a commencé avec ce petit groupe. Et en fait, on a eu l'occasion de partager la parole de Dieu. Et immédiatement, tout ce petit groupe s'est converti à Jésus-Christ. Ils ont arrêté toutes ces choses-là. Et ce petit groupe est devenu une petite cellule de chrétiennes, des petites dames d'une soixantaine d'années. Et c'est en travaillant avec ce petit groupe qu'on a multiplié. Et aujourd'hui, il y a une église là d'une cinquantaine de personnes. Amen. Donc c'est excitant et encourageant de voir que Dieu peut travailler au travers de nous. Donc il y a du travail à faire dans cette région, ça c'est sûr et c'est certain. Donc je voudrais partager avec vous quelques principes donc de la parole de Dieu et j'ai appelé ce message de croissance et conquête. Croissance et conquête et je voudrais partager avec vous 5 principes incontournables. C'est-à-dire que pour grandir et pour conquérir, il y a des choses qui sont indispensables. Et je voudrais partager avec vous 5 de ces choses, 5 principes incontournables pour la croissance et pour la conquête. C'est des choses qui sont vraies au niveau de l'Église, mais c'est des choses qui sont vraies aussi au niveau de notre vie personnelle, ou au niveau d'un projet, ou au niveau d'une entreprise, ou au niveau d'une carrière, ou au niveau de quelque chose que tu vises. Donc c'est quelque chose qui peut être applicable dans différents domaines de ta vie en tant que chrétien et qui, bien sûr, fonctionne aussi pour l'Église. Vous êtes prêts? J'ai votre feu vert? Je peux y aller? Je peux décharger mon arme? Hein, parce que j'ai chargé mon fusil, j'ai 5 cartouches. Je peux y aller? Ah, merci, vous me faites plaisir. On va juste prier, si vous voulez bien, avant. Et on va demander encore une fois la grâce de Dieu sur sa parole. Ah, Seigneur, je te remercie pour cette occasion de partager ta parole, les principes vivants qui sont dans ta parole et qui sont vrais, qui sont puissants pour nous édifier, mais aussi la sagesse qu'il y a pour bâtir. Et Seigneur, je te remercie, aide chacun de nous. Et Seigneur, ouvre nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons comprendre, recevoir et serrer cette parole dans nos cœurs pour l'appliquer, pour qu'elle porte du fruit dans nos vies, dans nos familles, dans nos projets, dans notre Église, dans cette région, dans cette ville, dans ce pays, au nom puissant de Jésus. Amen. Et amen. Le premier de ces principes, c'est le principe de vision. C'est tout simple. Et vous connaissez ce verset. Faute de vision, le peuple périt. Hein, ou le peuple est sans frein. Selon les traductions, faute de vision, dans les proverbes 29, 18, le peuple est sans frein. Le peuple périt. Et le principe de vision est un principe clé qui vient de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, Dieu avait un plan. Quand Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde, il ne s'est pas dépêché de faire quelque chose. C'est quelque chose qui était prévu avant même le commencement des temps. C'est écrit. Dans l'Apocalypse, par exemple, il est dit que l'agneau a été immolé avant même la fondation du monde. Dans Éphésiens chapitre 1, par exemple, il est dit que Dieu avait prédestiné toutes ces choses dans son amour depuis des siècles, avant même de commencer la première création. Dieu avait déjà prévu la deuxième. Donc Dieu n'a pas agi sous le coup de l'urgence, mais Dieu a un plan précis. Dieu est un planificateur. Dieu travaille au travers de plans, de projets et de visions. Et Dieu nous a fait à son image. L'être humain est le seul qui est capable d'avoir une image mentale, de réfléchir à son projet. Tu peux manipuler ton projet dans ta pensée avant de le faire. Tu peux concevoir avant de réaliser. Et nous sommes les seuls sur cette planète qui avons cette faculté. Les animaux ne planifient pas. L'animal réagit directement dans le temps présent. Et certains humains aussi. Mais on a aussi nos réactions directes. Et il en faut aussi des fois. Mais on a ce pouvoir de se projeter. Je peux réfléchir sur ce que je vais faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Ce sera un peu dur, mais j'ai une idée de là où je vais être, en tout cas. Mais en tout cas, j'ai cette faculté de vision. Et Dieu travaille au travers d'un principe de vision. Il y a quelque chose, je ne sais pas si chaque église, chaque courant d'église a un petit peu sa manière d'être, mais je sais que moi, dans le courant d'église que j'ai fréquenté, il y a un petit peu cette notion de gens très spirituels et qui en réalité pensent s'en remettre à Dieu, mais s'en remettre dans une espèce de fatalité qui pour moi n'est pas biblique. Ah oui, si Dieu veut. Moi, j'ai tout remis entre les mains de Dieu. Des fois, on a des raccourcis chrétiens comme ça, un peu rapides. Ah, on remet tout dans les mains de Dieu. J'ai remis ma vie dans les mains de Dieu. Ah, tout est entre les mains de Dieu. Dieu va faire ce qu'il veut. Si Dieu veut, alors j'arriverai à tel ou tel point. J'ai donné ma vie à Dieu, donc Dieu a toute ma vie. Si Dieu veut, Dieu va m'amener du point A au point Z. Mais je me suis rendu compte avec le temps que ce n'est pas tout à fait vrai. Ça, c'est un petit peu une philosophie, Inch'Allah. Mais c'est ça. C'est-à-dire que Dieu est tout-puissant, Dieu est souverain, donc si Dieu veut, il me prend et il m'amène là. Mais Dieu ne travaille pas dans ce principe-là. Par exemple, il y a des versets dans la Bible, par exemple le psaume 37, versets 4 ou 5, où il est dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est-à-dire que s'il n'y a pas de désir dans ton cœur, Dieu ne va pas te conduire à un certain point. Dieu ne nous conduit pas malgré nous-mêmes. La conversion ne nous a pas ôté notre libre arbitre, mais la conversion et la nouvelle naissance a renforcé notre libre arbitre pour qu'il aille dans le sens de Dieu. Amen. Vous êtes là? Ouais. Amen. Vous avez fait plaisir, rassurez-moi. J'ai eu l'impression que j'étais tout seul. Et Dieu renforce notre volonté, Dieu crée des désirs nouveaux en nous pour nous conduire. Par exemple, Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Certaines traductions disent pour l'accomplissement de ses desseins. Et en réalité, la volonté de Dieu, Dieu l'écrit dans notre cœur. Ce n'est pas juste la loi de Dieu qui est venue s'écrire dans notre cœur, mais c'est la volonté de Dieu qui doit s'écrire dans notre cœur, le sentiment de Dieu, la pensée de Dieu qui est dans notre cœur. Et Dieu veut inspirer en nous un désir, Dieu veut inspirer en nous un projet, une vision, pour que cette vision devienne claire en nous, ce projet devienne clair en nous, et pour que nous ayons envie de l'exécuter et de l'accomplir. Et Dieu travaille au travers de ce principe de vision. Amen. Et je voudrais vous dire quelque chose. Je pense que vous avez un pasteur qui est un visionnaire. Et c'est une grande bénédiction d'avoir un pasteur qui n'est pas simplement un pasteur, mais qui est un pasteur visionnaire. Parce que vous savez, on pourrait penser que le travail d'un pasteur, c'est... Si on pense à un berger, on peut penser simplement au côté maternel. Le pasteur protège, le pasteur nourrit. C'est un aspect du pasteur. Mais Jésus est le bon berger, mais Jésus était un leader. Jésus était un visionnaire. Jésus n'a pas simplement dit « je vais vous nourrir, je vais prendre soin de vous », il l'a dit, mais il a dit aussi « suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc Jésus était un leader, Jésus était un meneur d'hommes, Jésus était un formateur de disciples, Jésus était un leader qui a formé des leaders, Jésus était un visionnaire extraordinaire. Et il est venu pour accomplir une vision, pas justement dans un but protecteur et de guérir et de prendre soin du troupeau. Il avait ces deux aspects à sa personne. Et avoir un pasteur qui est un visionnaire, c'est une grande bénédiction. Et je vous encourage à capter le principe de vision, la vision que votre pasteur et votre leader essayent aussi de transmettre, peut-être de partager avec vous et d'insuffler. Parce que Dieu travaille au travers d'un principe de vision. Et lorsque Dieu communique une vision, lorsque le Saint-Esprit inspire une vision à une église et à ses leaders, c'est une grande bénédiction. Et ça veut dire que pour nous, en tant qu'église, c'est le moment d'emboîter le pas et de suivre. Parce que ça veut dire que Dieu a quelque chose de plus pour nous. Amen. Et je vous encourage à vraiment travailler avec ce principe-là. Je ne veux pas développer plus là-dessus, mais c'est un principe clé, même dans nos vies personnelles. Le fait de capter ce que Dieu veut pour moi dans l'avenir et de le voir à l'avance, d'avoir une vision de là où Dieu veut m'emmener, de commencer à le voir, de commencer à le prévoir, de commencer à le travailler, de commencer à m'organiser pour aller dans cette direction. Mais c'est un principe clé et un principe puissant qui peut changer notre vie. On ne peut pas attendre que Dieu nous appelle du point A au point Z. Dieu veut mettre un désir en toi, Dieu veut mettre une compréhension en toi pour que tu puisses voir que tu peux toi-même aller là. Et tu dois utiliser cette vision. Jésus était motivé par la vision. Par exemple, il est dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus, à cause de la joie qu'il voyait, il a souffert la croix et il a méprisé l'ignominie d'un tel supplice. C'est-à-dire que ce qui a donné la force à Jésus de traverser toutes les épreuves qu'il avait, c'est qu'il avait la vision de ce qui allait se passer derrière la croix. Souvent, on prêche le but de Jésus, c'était la croix, mais le vrai but de Jésus, c'était après la croix. Et Jésus a traversé la croix pour pouvoir atteindre la vision que le Père lui avait donnée, cette vision de racheter l'humanité et de pouvoir nous bénir. Jésus, depuis, est assis à la droite de Dieu. Il a envoyé le Saint-Esprit sur l'Église et il dirige le corps de Christ jusqu'à ce que les temps de la fin arrivent, etc., etc. Amen. Et cette vision-là, le Père lui avait donné à Jésus. Et c'est à cause de cette vision que Jésus a marché avec une telle force et qu'il a pu traverser les obstacles qu'il a pu traverser. Quand tu as une vision à l'intérieur de toi, il y a une force extraordinaire qui vient sur toi. Tu connais ta direction, tu sais quoi faire de ton temps, tu sais comment affronter les obstacles parce que tu sais où tu vas. Tu as une certitude de ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi et il y a comme une force, une invincibilité qui vient sur toi. Si Dieu te montre quelque chose, si par la parole de Dieu tu as la conviction qu'une chose peut être possible et atteignable, et il y a des dizaines et des centaines de ces choses-là, alors tu deviens quelqu'un qui est en marche et que rien ne peut arrêter. Amen. Amen. Donc je vous encourage en tant qu'Église à être fort ensemble autour de la vision que Dieu vous communique et d'être sensible à celle que le pasteur visionnaire essaye aussi de stimuler et de mettre à jour au milieu de vous. Le deuxième principe que je veux partager, il est relié au principe de vision et c'est tout simplement un principe de foi, le principe de la foi. Et en tant que chrétien, on est tous censés avoir la foi et on a tous de la foi, mais il y a différents niveaux de foi, il y a différentes dimensions de foi. Et en tout cas, ce que je voudrais nous dire qui va stimuler notre foi, c'est que Dieu est un Dieu de croissance. La division, c'est l'œuvre du diable. Hein ? Au niveau mathématique, la multiplication, c'est l'œuvre de Dieu. La soustraction, c'est l'œuvre du diable. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Lorsque Dieu a créé l'humanité, la première chose que Dieu a fait, Dieu leur a dit, croissez et multipliez. Dieu les a bénis. Dieu est un Dieu de croissance. Proverbe chapitre 4, verset 18. Le chemin du juste, il est comme le soleil qui se lève à l'aube, mais qui monte jusqu'à son plein zénith. Ça veut dire que le chemin de quelqu'un qui est né de nouveau, c'est un chemin qui commence avec une certaine luminosité, mais qui est prévu de monter jusqu'à la pleine luminosité. Des fois, on attend, ah oui, quand tu te convertis, tu es au zénith, et puis les années d'après, la lumière baisse. Mais c'est l'inverse de ce que Dieu a prévu. Dieu n'a pas prévu que ton feu diminue. Dieu n'a pas prévu que ta lumière baisse, mais Dieu a prévu que ta lumière augmente, parce que Dieu est un Dieu de croissance. Et ça, c'est tellement important de capter ces choses-là. C'est une forme de vision aussi. Parce que malheureusement, il y a des fois des chrétiens, des fois des églises, des fois même des pasteurs qui ont une vision catastrophiste des choses. Et nous allons vers ce que nous croyons. J'ai une amie qui a fait de c'est pas du saut en parachute, c'est de l'aile planante, comme on dit, aile volante ou aile planante? Non, avec le parachute, mais que tu diriges là. Parapente. Merci beaucoup. Elle s'est lancée comme ça pour essayer. Elle a fait du parapente et bon, tout se passait bien. Puis au moment de prévoir l'atterrissage, elle a commencé à s'inquiéter et puis elle voyait un endroit où il y avait plein de rochers un petit peu escarpés. Elle a dit, oh là là, si je me plante là-dessus, je vais m'éclater, je vais me déchirer. Et en fait, comme elle avait peur de ça, elle regardait ces rochers et en fait, plus elle faisait ça, plus elle se dirigeait dessus. Et elle était avec un instructeur, heureusement, et il lui dit, surtout, ne regarde pas là où tu ne veux pas aller. Parce que quand tu fixe quelque chose inconsciemment, tout ton corps, tout en toi se tourne autour de ça. Et en fait, du coup, tu te projettes vers là et c'est vers là que tu vas. Elle lui dit, au contraire, fixe-toi la cible de l'endroit où tu veux atterrir et dirige ton mouvement, dirige ton corps, dirige tes gestes vers là et tu vas conduire ton parachute, ton parapente vers l'endroit où tu vas atterrir. Et heureusement, elle a compris ça et elle a suivi les instructions et elle a atterri au bon endroit. Et ça, c'est tellement vrai. Je connais un pasteur dans une petite région de France. Il a commencé une église, il avait plein de jeunes dans son église, il avait un potentiel extraordinaire. Et lui, c'était quelqu'un qui était tellement il étudiait tellement la parole, il a étudié l'Apocalypse. Et lui, il s'est mis à croire et à prêcher, voilà, on est dans les temps de la fin, l'Antichrist arrive, c'est la fin des temps, donc la fin des temps, il n'y aura pas de réveil, l'église ne va pas grandir, donc toutes les églises grandissent, c'est l'Antichrist. Ouh, il est parti dans un truc. Et tu sais qu'est-ce qui s'est passé avec ces années? Aujourd'hui, son église, il reste 4 personnes dedans ou 5 personnes dedans. Parce que ce qu'il a cru, ce qu'il a médité, ce qu'il a prêché, ce vers quoi il s'est fixé comme objectif, c'est là vers lequel il est allé. L'antéchrist n'est pas arrivé par contre. Mais par contre, le fait que l'église n'allait pas grandir et qu'il n'y avait pas à avoir de réveil, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'il a cru. Et on peut trouver un passage de la Bible qui dit quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment la pensée de Dieu pour nous? Nous sommes dans la nouvelle alliance en plus. Toute forme de malédiction, toute forme de jugement, toute forme de condamnation n'est pas pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce que affirme Romains 8:1. Le statut du chrétien est un statut entièrement nouveau qui ne peut pas être comparé à quantité de situations qui se trouvent dans l'ancienne alliance. Et des fois, nous interprétons mal la Bible. Et le diable est capable d'interpréter la Bible à notre détriment et nous devons faire attention de comment, avec notre pensée, nous prenons la parole de Dieu. Non, Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu positif, Dieu est un Dieu qui nous aime et Dieu est un Dieu de croissance. Pour moi, une direction claire de la vision de Dieu pour ma vie, c'est Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, qui sont des projets de paix et non de malheur. Dieu n'a pas planifié le malheur pour ma vie. Dieu n'a pas planifié le malheur pour ta vie. La Bible dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. C'est ce que je dis souvent aux chrétiens, si tu veux connaître le plan de Dieu pour toi, c'est les promesses de la Bible pour toi. Amen. Et c'est important de croire ça. Je crois que Dieu est un Dieu de croissance. Pour ma vie personnelle, par exemple, dans la vie spirituelle, 2 Corinthiens 3:18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire, en la même image par le Seigneur, l'Esprit. Un chrétien doit être transformé de gloire en gloire. La vie chrétienne normale, c'est que tu sois transformé de gloire en gloire. C'est-à-dire dans une mesure de gloire vers une mesure de gloire plus grande. Il n'y a pas de décroissance prévue dans la vie spirituelle. C'est normal parce que le but, c'est que nous atteignions la stature parfaite de Jésus-Christ. Et si on commence à décroître, on n'est pas arrivé parce que je pense qu'il y a une marge déjà entre là où nous sommes et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, non ? En tout cas, pour moi, non, les autres, je vois que vous êtes déjà, vous êtes tout près de, vous êtes arrivés déjà, non ? Est-ce qu'il y en a comme moi qui ont une marge ? Hein ? Une marge de manœuvre, vous avez une marge. Alors, je ne sais pas comment tu mesures cette marge, mais en tout cas, on ne peut pas se permettre de décroître quoi, spirituellement. On est d'accord ? Hein ? On poursuit le but. Regarde Paul. Paul était un homme de foi, un homme de vision. Il disait, je poursuis le but, mon but est d'être comme lui. Il voyait la vie chrétienne comme une course et il courait de manière à remporter le prix, à gagner le but. Il avait une foi dans une arrivée positive, il avait une foi que Dieu allait l'utiliser, que Dieu allait amener une croissance et il a vu et il a provoqué même ces choses. Amen. Et ça, c'est tellement important. La foi n'est pas juste quelque chose de passif, mais la foi est quelque chose qui a un pouvoir de provoquer les choses. Vous n'êtes jamais demandé comment Jésus a fait pour dormir dans la tempête, dans une barque qui chavirait et qui était recouverte par les flots. Ah, moi, je dis que c'était un sommeil surnaturel. Ah, c'est vrai. Ce n'est pas possible humainement de dormir dans des conditions comme ça. Et Jésus dormait. Et il a dormi surnaturellement et volontairement. Et vous savez pourquoi ? Il s'attendait à ce que ses disciples exercent eux-mêmes la foi pour arrêter la tempête. Vous n'avez jamais pensé à ça ? Comment Jésus peut-il leur reprocher en disant « Mais où est votre foi ?» Ça veut dire que Jésus formait ses disciples à croire qu'eux-mêmes pouvaient faire certaines choses, pouvaient provoquer certaines choses à cause de sa présence et à cause du Saint-Esprit qu'ils allaient recevoir. Jésus suscitait ces choses-là en eux. Jésus leur montrait que ce que lui pouvait faire, il pourrait le faire. Quand Jésus s'est présenté en marchant sur l'eau, il y a un de ses disciples qui commençait à avoir l'esprit que son maître voulait lui inculquer. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur l'eau. L'idée est venue de Pierre, mais elle est venue de toute une préparation que Jésus était en train de... Jésus est en train de lui dire, ça y est, toi, tu commences à capter, tu commences à penser comme je veux que tu arrives à penser. Il a dit, oui, je le veux, viens et suis-moi. Et c'est lui qui a eu l'idée. La foi peut provoquer des choses. Il y a une foi qui nous permet d'être patient dans l'épreuve, d'attendre certaines choses. Mais il y a une foi qui nous permet de provoquer les choses. Et pour moi, j'ai la conviction, pour l'avoir vécu et pour l'avoir compris, que la foi provoque la croissance de l'Église. Si vous croyez que vous allez gagner des nouveaux, que des nouveaux vont venir dans votre Église, c'est ce qui va vous arriver. Mais vous devez le croire vraiment. Vous devez trouver des paroles de Dieu pour ça. Vous devez vous accrocher aux promesses de Dieu, croire la parole de Dieu, penser la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, et vous allez vivre la parole de Dieu. Vous savez ce que j'ai découvert dans ma Bible ? C'est que le chapitre qui suit Ésaïe 53, c'est Ésaïe 54. Ça, c'est une révélation, non ? Hein ? C'est puissant. Sauf que Ésaïe 53, vous connaissez tous. Ésaïe 53, c'est l'annonce de la crucifixion et de la résurrection de Jésus et des fruits qui vont sortir de ça. Et le premier fruit de Ésaïe 53, on doit le trouver dans Ésaïe 54. Et Ésaïe 54, ça commence par « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, parce que les enfants de la délaissée seront plus nombreuses que les enfants de celles qui étaient mariées. » Et l'apôtre Paul, dans les chapitres 4 et 5 de l'Épître aux Galates, nous révèle que cette femme stérile qui n'enfantait pas, c'est l'Église. Amen. Ça veut dire qu'une des premières conséquences de la croix et de la résurrection de Jésus, c'est la croissance de l'Église. Ésaïe 54 est la suite logique de Ésaïe 53. Ça veut dire que la volonté de Dieu pour chacune de nos églises, c'est qu'elle croisse et qu'elle multiplie, parce que Dieu est un Dieu de croissance, de multiplication. Et nous avons besoin de saisir ça dans la foi, par la parole, de saisir les paroles qui vont nous communiquer la foi et de nous positionner intérieurement dans nos pensées, dans ce que nous croyons, dans ce que nous sommes individuellement en tant qu'église au niveau de la foi. Parce que la foi n'est pas juste l'attente passive des choses, mais la foi a le pouvoir de provoquer les choses. Vous êtes là ? Amen. Amen. Wow. La troisième chose, je vais essayer de tout faire tenir dans le temps. La troisième chose, c'est, là on n'a pas de super mot en français pour ça, de l'idée de faire des disciples, un discipola, on dit, je ne sais pas si c'est très correct, c'est moche en tout cas, hein. Discipola. Mais en tout cas, l'ordre que Jésus a donné dans l'Église, c'est faites de toutes les nations des disciples. Et quand on lit le livre des Actes, avant qu'ils s'appellent chrétiens, on les appelait les disciples. Et même après qu'on les ait appelés chrétiens à Antioche, acte 11, on continue à dire les disciples, les disciples, les disciples, les disciples du Seigneur. Et ce terme qui est employé d'abord avec les douze de Jésus a continué de s'employer pour tous les chrétiens. Et je pense qu'une des clés de la croissance, c'est de pas simplement être un croyant, mais de devenir un disciple. Et c'est différent. Une petite chose toute simple, par exemple. Jésus a dit, dans Matthieu 28, 19, « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, tout ce que je vous ai prescrit. Hein, » vous connaissez cet ordre de mission. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait dans l'Église ? On fait ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que je suis en train de vous enseigner. Mais Jésus n'a pas dit « enseigner ». Jésus a dit « enseignez-leur à observer ». Et il y a une différence. Par exemple, là, je suis en train de vous enseigner quelque chose. Mais si on est dans une relation de discipola, je vais revenir dans un mois et je vais dire « qu'est-ce que vous avez fait de ce que je vous ai enseigné le mois dernier ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ?» J'avais enseigné sur ça, par exemple, sur la foi. Ah, tiens, qu'est-ce que vous avez pris comme verset ? Sur quoi vous vous appuyez ? Est-ce que quelque chose a changé dans votre manière de penser, dans votre manière de faire ? Est-ce que vous êtes dans la foi par rapport au fait que des nouveaux vont venir ? Est-ce que vous accueillez avec foi les nouveaux ? Est-ce que déjà, à l'intérieur de vous, vous êtes enceint des nouveaux qui vont arriver dans votre Église ? Est-ce que vous avez établi quelque chose au niveau du discipola ? Vous voyez ce que je veux dire ? Enseigner à observer, ça veut dire qu'il y a une vérification de ce qui est mis en pratique. Et ce qu'on fait, nous, dans les églises, c'est qu'on enseigne. Mais faire des disciples, c'est enseigner à observer. Ça veut dire que c'est un autre type de relation. Mais vous savez, ce type de relation implique pas mal de choses. Parce que le fait de juste enseigner, c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Les pharisiens ils enseignaient aux gens à faire de grandes choses, mais ils ne le faisaient pas eux-mêmes. Mais quand tu veux faire des disciples, la première personne dont tu dois faire un disciple, c'est toi. Et ça, c'est un principe biblique. Vous voyez, souvent on dit, ah non, non, il faut suivre le Seigneur. Hein, il ne faut pas me suivre. Faites comme Jésus, mais ne faites pas comme moi. Hein, on dit ça des fois, mais ce n'est pas biblique. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1er. Ça veut dire que je ne suis pas parfait, mais je dois devenir un modèle pour ceux que je veux enseigner. Autrement dit, j'ai la responsabilité d'être en avance par rapport à eux. Je ne suis pas meilleur, mais je dois être devant. Je dois pouvoir leur dire, c'est par là qu'il faut passer. Enseigner quelqu'un, c'est donner la théorie. Mais faire un disciple, c'est dire à quelqu'un, suis-moi, c'est par là qu'il faut passer. Il faut s'y prendre de cette façon-là. Je suis capable de t'aider parce que je suis passé par là. Ça veut dire que moi-même, j'ai pris les devants. Ça veut dire que j'ai fait de ma propre vie un disciple de Jésus-Christ. Ça, c'est la clé. Mais ça veut dire que ça nous demande plus à chacun d'entre nous. Et on le sait par expérience. Nous reproduisons ce que nous sommes et pas ce que nous voulons que les autres soient. Tes enfants vont faire ce que tu fais, pas ce que tu dis. Si tu dis une chose que tu ne fais pas, tes enfants vont faire ce que tu fais, pas ce que tu dis. Et ça, on le sait en tant que parent. Moi, j'avais mes parents, ils fumaient tous les deux. Avec mon frère, ah, il ne faut pas fumer, il ne faut pas fumer. Ils nous montraient les photos des poumons tout noirs, tout ça, tout brûlé, tout cramé, tout carbonisé. Non, non, on ne fumait pas, non, non. Mais eux, ils fumaient. Et mes premières cigarettes, je les ai piquées à mes parents pendant qu'ils étaient au travail. À 8 ans, j'ai commencé à goûter leurs cigarettes, elles étaient dans la maison. Et je suis devenu fumeur. Et mon frère est devenu fumeur. Parce qu'ils étaient bien placés, ils connaissaient tout, ils nous ont fait toute une théorie scientifique et médicale sur les méfaits de la cigarette et du tabac, mais malheureusement, eux-mêmes étaient fumeurs. On est d'accord ? Donc, faire des disciples, ça veut dire que ce n'est pas juste donner l'enseignement, mais ça veut dire, quelque part, devenir soi-même un modèle de l'enseignement que je vais donner. C'est un autre défi, hein, mais c'est celui dans lequel Dieu nous a appelés. Le Saint-Esprit travaille en nous. Et avec cette vie que nous recevons de Jésus, nous pouvons communiquer quelque chose et enseigner à d'autres aussi à faire les mêmes choses. Ça nous donne de la patience envers les autres aussi. Parce que quand tu as mis du temps toi-même à arriver à certaines victoires dans ta vie, tu sais ce que ça demande et tu as de la patience envers les autres. Tu as de la foi pour les autres. Tu as de la prière pour les autres. Tu as de la compassion pour les autres. Parce que peut-être toi, tu as fallu des années pour enlever ça de ta tête, pour enlever ça de ta vie. Donc tu sais très bien que tu ne peux pas demander en 2 jours à la personne d'être arrivée là où il t'a fallu peut-être 10 ans pour arriver. C'est concret. Le discipola a des choses vraiment concrètes. Là aussi, dans mon courant d'église, il y a des gens très spirituels. Ah, mais moi, je suis disciple de personne. C'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Jésus m'enseigne directement. Vous n'avez pas ce genre de personne ici, j'en suis sûr. C'est que dans mon courant d'église. Mais ce que j'ai découvert dans la Bible, c'est que Jésus n'a pas demandé au Saint-Esprit de faire des disciples. Jésus a demandé à des hommes et des femmes de faire des autres des disciples. Jésus a dit à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples. Donc ça veut dire que celui qui t'aide à devenir un disciple, c'est une personne. Bien sûr, le Saint-Esprit agit directement dans ta vie, mais il y a quelque chose qui se fait au travers de gens que Dieu place dans ta vie pour t'aider, pour t'encourager, pour te coacher, pour te pastorer, peu importe le mot, mais l'idée, c'est qu'il y ait une relation spéciale. Et c'est quelque chose par lequel quelque chose de surnaturel se transmet dans l'Église. Ce que je crois, c'est que le discipola, c'est la manière dont... C'est la stratégie que Dieu a donnée pour que la vie spirituelle soit transmise et soit développée. Par exemple, Paul dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Galates chapitre 4, verset 19. Donc là, Paul, en tant que, il avait une paternité spirituelle. Et il dit que le travail que Dieu faisait avec lui permettait d'enfanter Jésus-Christ dans la vie des autres. Ce n'est pas juste un enseignement théorique. C'est la reproduction d'une vie spirituelle qui s'est développée à l'intérieur de quelqu'un. Et vous savez, c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Jésus ne leur a pas donné juste quelque chose de théorique. Jésus a reproduit sa vie et sa vie surnaturelle à l'intérieur de ses disciples. Et plus je lis les évangiles, et je les lis en boucle, hein, plus je suis étonné quand on les lit sans aucune lunette, quand tu regardes juste ce que Jésus a dit, mais tu te rends compte de plein de choses. Par exemple, dans Matthieu 16, un jour, Jésus dit à ses disciples, « D'après les hommes, qui dit-on que je suis ? » Vous connaissez ce passage, hein, quand Jésus s'est promené vers Césarée. « D'après les gens, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? » Ah, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, certains disent que tu es un des anciens prophètes, etc., etc. Vous connaissez ce passage ? Et Jésus dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et là, 11 sur 12 ont eu zéro. Ils ont séché l'interrogation. Et il y en a un qui répond, Simon, et il dit, « Moi, monsieur. Oui, toi, petit, parle. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Il n'hésite pas, il y va. Waouh, drôle de but. Hey. Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, parce que ce n'est pas les hommes, la chair et le sang qui t'ont révélé là, cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. » On est d'accord ? Et juste après, Jésus veut les conduire plus loin dans la révélation. Jésus leur dit, voilà, mais le Fils de l'homme va être livré entre les mains des principaux sacrificateurs. On crachera sur lui, on le frappera, on le fouettera et il sera crucifié. Mais 3 jours après, il ressuscitera. Et là, le même apôtre Pierre approche de Jésus. Non. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et là, Jésus le reprend sévèrement en lui disant, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Quand j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit, mais comment Jésus peut reprendre quelqu'un de ne pas penser comme Dieu, mais de penser comme un homme ? Il y a un problème, non ? Comment tu peux dire à quelqu'un, hey, toi, mais tu ne penses pas comme Dieu, tu penses comme un homme ? Ben, c'est normal, j'en suis un. Non ? Et tu sais quoi ? Il avait même un soutien biblique. Et en plus, d'après Ésaïe, chapitre 55, verset 8, la Bible dit que les pensées de Dieu, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc c'est impossible pour un homme de penser comme Dieu. Mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire ? Si Jésus reproche à ses disciples de ne pas penser comme Dieu, mais comme des hommes, ça veut dire que il s'attend à ce que ses disciples pense comme Dieu et pas comme les hommes. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que dans son contact, dans le discipolat, dans la relation spéciale que Jésus avait avec ses disciples, quelque chose se passait. Et c'est exactement le fruit de tout ce passage. Les hommes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, ils disent ça, ça, ça. Mais vous ? Mais nous, on est des hommes aussi. Autrement dit, ça veut dire quoi ? La question même de Jésus implique que Jésus attendait une réponse qui n'était pas celle des hommes. Il s'attendait à ce qu'il pense à un niveau au-dessus des hommes. Et quand Pierre a répondu, il a dit « Voilà la réponse que j'attends. » Parce que ce n'est pas les hommes qui t'ont montré ça, mais c'est mon Père. Et quand Pierre, après, lui répond vraiment d'une manière humaine, « Ah non, Seigneur, ne te réponds pas. » Et il le reprend en disant « Non, là, tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. » Et il le reprend. Autrement dit, « J'attends de toi. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « J'attends de toi que tu restes au niveau de la pensée de Dieu dans ta manière de penser. » Mais ça, c'est surnaturel. Isaïe 55:8 dit que ce n'est pas possible. Autant les cieux sont élevés de la terre, autant ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et ses voix sont au-dessus de nos voix. Mais dans le discipolat de Jésus, dans le contact de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui va t'amener à développer la vie du Saint-Esprit et de la parole de Dieu en toi, ça devient possible de vivre une vie qui monte de niveau. Et le discipolat est le moyen que Dieu a donné pour que la vie spirituelle grandisse en nous. Faire des disciples, c'est pas juste de dire ah, il faut avoir un meilleur comportement. Faire des disciples, c'est apprendre aux gens. Quand tu es né de nouveau, il y a quelque chose de nouveau vraiment qui est à l'intérieur de toi. Il y a une vie nouvelle que tu connais pas, que tu maîtrises pas, qui a pas ses racines dans ce qui est humain. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et faire des disciples, c'est éduquer cette vie de Jésus-Christ qui est en nous pour qu'elle grandisse. Paul était devenu un maître. Il a dit « Pour moi, c'est même plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Galates chapitre 2, verset 20. Et il disait « Mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Donc, Paul, au travers des disciples qu'il faisait, il reproduisait la vie de Christ qui était en lui. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a reproduit la vie surnaturelle qui était en lui. C'est pour ça que ses disciples ont continué à faire les mêmes choses que Jésus faisait. Waouh ! C'est excitant, non ? Vous savez quoi ? Si Jésus n'avait pas eu l'intention de reproduire son caractère et ses capacités, ce n'est pas des disciples qui l'auraient fait, c'est des adorateurs. S'il était descendu en disant « Voilà, je suis le Fils de Dieu sur terre, je suis le Dieu vivant sur terre, de toute façon, vous n'arriverez jamais à ce que je fais », il aurait créé des adorateurs. Il aurait créé un club d'« Adorez-moi, je suis le Fils de Dieu vivant sur terre ». Et je vous conduirai depuis le ciel. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus a fait des disciples. C'est-à-dire qu'il leur a appris à faire ce qu'il faisait. Donc ça veut dire qu'il leur a appris et il leur a transmis sa nature, son caractère et sa capacité. Et faire des disciples, c'est le moyen de Dieu pour que la vie de Christ qui s'est développée en nous puisse se développer et devenir mature dans tout le corps de Christ. Amen. Et j'arrête là parce que le temps a tourné. On va terminer juste par la prière, si vous voulez bien, parce que le temps passe. Et voilà, je voulais vous donner 5 principes, mais vous en avez eu 3. Mais déjà, ça ouvre un chantier. Donc c'est des pistes, hein. Chaque point pourrait demander quantité de choses. C'est des pistes pour vous aider à réfléchir. Moi, j'aime bien un peu faire exploser un peu des fois des bombes, parce que des fois, on a nos petits systèmes de pensée qui sont bien faits, bien verrouillés et qui sont petits. Et la parole de Dieu, pour moi, doit déverrouiller. La parole de Dieu doit ouvrir des champs. Et si ça ne répond pas à tout, mais j'espère que ça pose des questions et que ça ouvre des portes et des champs de réflexion et de travail aussi pour aller vers d'autres endroits. Donc que Dieu vous bénisse, vous encourage. Rappelez-vous de ça, en tout cas, principe de vision, principe de foi et principe de discipolat. C'est des principes clés pour la croissance de votre Église. Et je sais que vous avez sûrement embrayé sur ces choses-là. Je ne viens pas vous apprendre quelque chose de nouveau. Je viens renforcer quelque chose qui est déjà au milieu de vous. Et je voudrais juste qu'on termine par la prière. Merci pour votre patience à mon écoute et votre écoute de la parole de Dieu qu'elle porte du fruit et du fruit en abondance dans vos vies personnelles et dans votre Église aussi. Amen. On pourrait se lever et terminer par la prière si vous voulez bien. Merci. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie parce qu'elle est vivante, elle est agissante en nous. Et je te remercie parce qu'elle est remplie aussi de la sagesse divine. Et je te remercie parce qu'elle contient les choses dont on a besoin. Ouvre nos yeux pour que nous puissions les voir, les appliquer. Et Seigneur, je te remercie que cette parole porte du fruit. Je te remercie de bénir, d'encourager cette Église, d'encourager tous ceux qui portent cette vision de croissance, de discipolat, de multiplication, qui veulent avoir un impact plus grand sur le monde et avoir un impact plus grand de Christ dans leur vie. Et je te remercie de les bénir. Bénis-les dans ce projet d'Église. Et stimuler dans une vision de foi, de croissance et de discipolat. Au nom de Jésus-Christ, merci de leur faire du bien, merci d'encourager leur pasteur, les leaders aussi de cette Église. Et merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire au travers de chaque membre du corps de Christ qui est ici, dans cette assemblée. Que ta bénédiction, ta grâce, ta communion et l'accomplissement de la vision aussi qu'ils ont, grandissent et soient puissants au milieu d'eux, au nom de Jésus. Amen.